Il était dans le couloir de la mort depuis plus de 20 ans dans l'État du Texas aux États-Unis. Ivan Cantu, un homme d'une cinquantaine d'années, a été exécuté cette semaine. Il avait été condamné à mort fin 2001 pour un double meurtre, celui de son cousin et de la fiancée de son cousin. Jusqu'au bout, Ivan Cantu a clamé son innocence. Il y a une douzaine d'années, Imad Messoudi l'avait rencontré dans le cadre d'un reportage pour Transversal. C'était fin 2011. Je vous propose aujourd'hui de réentendre son reportage diffusé le 10 décembre 2011. Un reportage réalisé avec Stéphane Crombin et qui débute à Polonsky Unit. C'est la prison où se trouvait Ivan Cantu à l'époque. Une prison américaine située dans le comté de Polk au Texas.
Nous sommes au milieu de nulle part ici à Livingstone, dans l'État du Texas, à 70 miles au nord-est de Houston, à 200 miles à l'est de Dallas. La Polunsky Unit se dresse au loin, à gauche des bureaux administratifs, des blocs de béton. C'est là que plusieurs centaines de détenus attendent d'être exécutés. Le fameux couloir de la mort est rectangulaire, gris, propre, aseptisé. Parmi ces condamnés à mort, un homme, jeune, souriant. Il est dans le couloir de la mort depuis 3644 jours. Son nom, Ivan Cantu, un condamné à mort ordinaire.
J'ai eu une bonne enfance. Ma famille était très bien, aimante. Comme toutes les familles, il y avait des moments moins drôles. Mais la plupart du temps, cela se passait bien. J'ai pu aller dans de très bonnes écoles. Et après avoir terminé mes secondaires, j'ai choisi de travailler très jeune. Aujourd'hui, c'est l'une des choses que je regrette, ne pas avoir été à l'université. Mais en tout cas, on peut dire que j'ai eu une bonne enfance. Avant mon arrestation, tout se passait bien. Je travaillais comme responsable des prêts dans une société financière. La vie était très bien. J'étais un mec tout ce qu'il y a de plus normal.
Tout bascule en novembre 2000. Ivan Cantu est arrêté, accusé et condamné à mort pour le meurtre de son cousin et de la fiancée de celui-ci. Ivan Cantu a toujours proclamé son innocence.
Le corps de mon cousin a été découvert le 4 novembre. Au moment où son corps a été découvert, j'étais en route vers la ville d'origine de ma petite amie de l'époque, en Arkansas. En apprenant la nouvelle, j'ai tout de suite contacté ma famille. Je me suis arrangé pour revenir à Dallas. J'étais tout au long en contact avec le détective. Et sur le chemin du poste de police, avec ma mère, j'étais arrêté. Et même à ce moment-là, j'ai demandé à voir le détective. J'ai donné toutes les informations sur le mode de vie de mon cousin, des suspects potentiels. Et là, ils m'ont directement arrêté. J'ai eu un avocat commis d'office. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un ancien procureur du comté. Dès le début, il n'a pas voulu m'écouter. Il partait du principe que les autorités avaient arrêté la bonne personne. Il ne m'a pas défendu, tout simplement.
L'histoire aurait pu s'arrêter ainsi. Un meurtre, un condamné à mort qui clame son innocence et puis finalement, une exécution. Mais par hasard, Ivan Cantu entre en contact avec Tammy, une étudiante en criminologie.
Ça a été un tournant dans ma vie. Ça ne m'a pas seulement permis de voir la vie sous un nouveau jour, enfermé dans ce donjon. C'est simple en fait, sans Tammy, je serais déjà mort. Avant elle, je n'avais que de mauvais avocats. Avec elle, on a trouvé des éléments que la défense n'avait pas utilisés. On a pu le montrer. Elle a réussi à m'obtenir de bons avocats. Et aujourd'hui, mon affaire semble sur la bonne voie.
Il est toujours en prison, il a été condamné, le jury a mis 8 heures pour le condamner à mort. C'est un cauchemar, car maintenant nous devons défaire ce qui a déjà été fait et la cour ne veut pas l'entendre.
C'est alors le début d'une autre histoire, celle d'un couple qui se bat contre la peine de mort et qui finit par se marier. Tammy Cantu travaille dans un casino la nuit et le jour, elle s'échine à démêler les chevaux de l'affaire concernant son mari.
I get up every night at midnight. I go to work. I get off at 10 in the morning.
Je me lève tous les soirs à minuit. Je vais travailler jusqu'à 10h et de 10h à 5h de l'après-midi, je travaille sur l'affaire. Je dois contacter des gens par téléphone, par mail, par internet, par tous les moyens nécessaires. Je fais ce qui doit être fait.
Cette mère de famille, cette grand-mère ne voit pas le temps passer. Mais c'est sa vie, c'est son choix. Et elle n'est pas la seule à être venue en aide à Ivan Cantu. Des amis d'enfance ont retrouvé la trace du condamné à mort via Facebook. Mais plus surprenant, de l'aide est arrivée d'une ville lointaine située à plus de 8000 km du Texas. Véronica et François sont bruxellois. Cela fait 3 ans qu'ils donnent un coup de main au couple Cantu.
J'ai surfé sur Internet, sur le site de la EPCM, donc Ensemble contre la peine de mort, qui est la principale association française lutte contre la peine de mort, qui m'a renvoyé vers un autre site où il y avait une liste de condamnés à mort qui était en attente de correspondants européens. Et j'ai trouvé Yvan tout à fait par hasard, parce qu'il se fait qu'à l'époque, je travaillais dans le domaine de la santé. Et dans ces centres d'intérêt, il était marqué la santé, donc c'est passé comme ça. Le soir, je lui écris une petite lettre, comme on envoie une bouteille à la mer, pour prendre une image un peu connue, et 15 jours après, il me répondait. Quand on connaît la situation des détenus là-bas, et particulièrement à Polunsky Unit, il est évident que la moindre lettre venant d'Europe ou des États-Unis ou de partout ailleurs, de l'extérieur, constitue un énorme ballon d'oxygène. Et donc c'était évident qu'il allait s'engouffrer là-dedans, et il s'est engouffré dans cette opportunité.
On lui envoie chaque mois une certaine somme d'argent pour l'aider un peu à satisfaire ses besoins quotidiens, parce qu'il faut savoir que les prisonniers là-bas n'ont pas le droit de travailler, donc ils n'ont aucun moyen à gagner de l'argent. Et s'ils n'ont pas d'amis ou s'ils n'ont pas des membres de famille qui les aident, alors ils ne peuvent pas s'acheter des objets de première utilité comme un dentifrice ou même des chaussures ou un stylo pour écrire. Donc évidemment, Yvan, il a une femme qui l'aide, mais elle travaille très très dur, elle donne déjà beaucoup d'argent à des avocats, etc. Donc nous, on a décidé de l'aider un peu dans sa vie quotidienne et aussi de lui permettre de s'acheter de la nourriture un peu de meilleure qualité, parce qu'il faut savoir que dans cette prison, ce qu'ils reçoivent à manger, ce n'est pas excellent. Donc il a vraiment... Ça améliore son quotidien et ça, c'est très important.
Du statut de pain friend, comme on appelle outre-Atlantique les gens qui entretiennent une amitié épistolaire, d'un acte d'humanisme est née une réelle amitié entre le couple américain et le couple belge.
J'ai toujours, et je le reste quelque part, été très sceptique par rapport à ce qu'on peut faire en tant qu'Européen pour faire bouger la machine judiciaire américaine. Mais là, par contre, j'ai trouvé quelque chose qui était un engagement humaniste. C'est-à-dire que bien plus que une lutte pour la peine de mort, c'est un engagement humaniste qu'on construit avec Yvan, qui est tout à fait sans illusion par rapport à ce que ça peut produire au niveau de son cas. Ça, c'est pas nous qui nous occupons, mais au moins qui permet d'abord d'une part d'alerter l'attention de l'opinion et puis d'autre part de le réconforter. Il y a vraiment une amitié qui s'est créée avec Yvan parce que c'est une personnalité assez exceptionnelle. Donc il y a quelque chose qui dépasse avec Yvan le cadre un peu strict et que j'admire profondément, de gens qui écrivent à des prisonniers qui n'ont pas les facilités d'expression d'Yvan, la luminosité d'Yvan, et qui méritent tout autant qu'Yvan cette entraide. Là, je pense que quelque part, il y a eu une forme de chance qu'on a eue pour qu'on peut parler ainsi. Et il y a vraiment de l'amitié qui s'est créée entre Yvan, Tammy, sa femme et nous deux. On s'est vraiment trouvés. Il y a vraiment une forme d'amitié assez étroite qui s'est créée entre nous.
Le cas d'Ivan Cantu ressemble de loin à celui du médiatique Hank Skinner. Preuve pas très consistante, témoignage discutable, avocat de la défense qui se rallie à la thèse de l'accusation. Katrin Case est responsable du Texas Defender Service, une association d'avocats qui vient en aide aux condamnés à mort. Pour elle, l'histoire d'Ivan Cantu est ordinaire et la recette pour combattre une condamnation à mort n'est pas à la portée de tous.
Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de dévouement, et ça demande beaucoup de moyens. Personne dans le couloir de la mort n'a d'argent. Tous les condamnés à mort ont des avocats commis d'office. Ces avocats travaillent énormément pour des salaires très très faibles. Ils ont l'obligation de tout reprendre à zéro. Donc, si vous avez de l'argent et de bons avocats, ils vont reprendre l'affaire du tout début, retourner la moindre petite pierre et chercher les preuves de votre innocence. Le problème au Texas, c'est que ces avocats ne sont pas très bien payés lorsqu'il s'agit de faire appel dans une condamnation à mort. Il y a des affaires où les avocats n'ont clairement pas fait leur boulot en ne présentant pas des preuves de l'innocence. Et c'est très, très pénible. Car il devient alors très difficile de présenter ces preuves devant une cour. Je pense qu'au Texas, on voit bien la mauvaise volonté de l'État lorsqu'il s'agit d'aider les pauvres. Que ce soit par rapport au système juridique ou médical, cet État ne veut pas payer. Et malheureusement, en ce qui concerne le système juridique, si vous n'avez pas d'argent pour un détective privé, pour une équipe d'avocats qui s'y connaît dans ce type d'affaires, vous ne pourrez pas changer votre condamnation. C'est un fait.
L'argent, le nerf de la guerre, permet parfois à un putatif président de la République française d'échapper à un procès pénal aux États-Unis. Mais au fond du couloir de la mort, lorsqu'il s'agit de défendre sa peau, il y a parfois au loin une petite lumière, symbole d'associations comme celle de Ketchwin Case, qui se porte au secours de condamnés à mort mal défendus. Mais là aussi, il n'y a pas de place pour tout le monde. Certaines affaires seront préférées avec un but bien précis.
Est-ce que cette affaire a du potentiel pour provoquer un impact au-delà de ce cas particulier? Par exemple, lorsque la Cour suprême a rendu illégale l'exécution des retardés mentaux, on recherchait ce type d'affaires qui pouvait avoir un impact pour quiconque prétendait avoir des problèmes mentaux. On cherche donc à ce que notre travail puisse influencer plus que l'affaire de notre client. On recherche l'impact.
Parfois, un miracle survient. Anthony Graves a été condamné à la peine capitale pour avoir été complice dans un sextuple meurtre. Cet homme a attendu 18 ans dans le couloir de l'amour pour qu'enfin la vérité éclate. C'était en 2010. Depuis, Anthony Graves revit presque comme si de rien n'était.
J'ai avancé dans ma vie. Si je dois regarder en arrière, je dirais que c'était juste une période complètement folle de ma vie. J'ai appris tellement à cette époque. J'ai réussi à donner un sens à ma vie, savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, me battre contre la peine de mort. C'était en moi et je ne le savais pas. Aujourd'hui, je veux que tout le monde le sache. L'application de la peine de mort est barbare, fantasque, arbitraire et raciste. Et ça ne devrait tout simplement pas exister.
Anthony Graves est donc bien placé pour le savoir. La vie derrière les barreaux à attendre la mort n'a rien d'une promenade de santé. Notre interlocuteur travaille aujourd'hui pour le Texas Defender Service. Sa mission est de sensibiliser tous les acteurs de la justice texane, procureurs, avocats, détenus. Car Anthony Graves sait de quoi il parle. Des journées dans le couloir de la mort, il en a vu passer.
Dans le couloir de la mort, un homme est face à lui-même, tous les jours, sans savoir à quel moment un coup de fil le préviendra de la date d'exécution. Et vous vivez avec ça tous les jours, ce frisson de la mort au-dessus de votre tête. Alors pour moi, un jour normal, commencer avec mes prières, prendre le petit déjeuner à 3 heures du matin, puis une petite heure à l'extérieur de la cellule à 6 heures du matin, la douche ensuite pendant 3 ou 4 minutes, à 9 heures du matin, c'est l'heure du déjeuner. Et après, j'avais l'habitude d'écrire une lettre, d'écouter la radio ou les infos. Ensuite, le dîner est servi à 15 heures. À ce moment-là, votre journée est terminée. Et de 15h à 3h du matin, vous réfléchissez à la façon de maintenir votre esprit en éveil. Moi, j'écrivais des tas de lettres et lisais un tas de livres et des journaux aussi. J'utilisais mon temps judicieusement. Je me disais tous les jours que je devais écrire une lettre qui aiderait à sauver ma vie. C'était ce que je faisais tous les jours. C'était mon boulot.
Vous êtes condamné à mort, vous attendez donc votre exécution, mais vous êtes condamné également à quitter le monde de la communication, d'avec votre famille, vos amis, même d'avec vos co-détenus, tous dans la même galère, mais au final, tous séparés, par les origines, par les gangs. En anglais, une expression semble taillée sur mesure pour le couloir de la mort, « live together, die alone », vivre ensemble, mais mourir seul.
Je suis dans une cellule 7 jours sur 7. Pendant 5 jours, je suis autorisé à sortir pendant 2 heures. C'est juste une plus grande cage, de quoi m'étirer, marcher un peu. Habituellement, je sors avec un autre détenu. C'est ce qui me permet d'avoir un peu de conversation avec des gens. Parfois, il y a des gars qui n'ont pas envie de parler. Ils tournent en rond dans cette cage, sans faire attention. Ça ne me dérange pas. En fait, c'est très facile d'être coincé dans ce rythme de vie. Je le vois autour de moi tout le temps. Même si je suis en prison, j'essaye de m'échapper à travers des livres, par la radio, mais tout le monde n'est pas capable de lire, tout le monde n'a pas de radio. Ils sont doublement prisonniers, par le corps et par l'esprit.
Votre cellule fait moins de 6 mètres carrés, vous n'avez pas de télévision, pas de téléphone, il n'est pas possible de dialoguer avec vos co-détenus, votre famille ou les gens qui vous sont chers. Vous n'avez rien, vous êtes assis, à attendre d'être exécuté, et en plus, la prison vous torture avec des règles qui en fait vous empêchent de faire quoi que ce soit, si ce n'est vous asseoir sur vos mains et attendre l'exécution. C'est complètement inhumain.
Du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, il y aura forcément un truc dingue. J'ai appris à vivre avec la déception. Ici, c'est une partie importante de ma vie. Beaucoup de gars savent qu'ils vont mourir ici. Ils se débrouillent pour faire passer le temps tout en sachant qu'ils vont mourir. Il y a également tellement de personnalités différentes. Les condamnés viennent de partout. Et pourtant, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de gangs aussi. En fait, chacun gère à sa façon.
J'ai vu des gars devenir fous. J'ai vu des gens abandonner leur procédure d'appel. J'ai vu des gars qui ont essayé de se pendre. Tout ça à cause des conditions de détention. C'est l'enfer.
Le personnel vous traite comme vous les traitez. Si vous les traitez correctement, 9 fois sur 10, ils feront de même. Mais il y a un certain nombre d'agents, même si vous êtes gentil avec eux, qui vous traiteront très mal. Je ne les laisse pas m'influencer. Je pense qu'ils font exprès pour vous faire exploser.
Un système est mis en place pour casser votre envie de vivre. Vous n'êtes alors qu'un homme mort, mais qui marche encore, en attendant le cercueil.
Échapper à ce destin, cette trajectoire tracée vers un cercueil n'est pas chose aisée. Parfois, même à l'extérieur, un coup de mou n'est jamais inévitable. C'est à ce moment-là qu'une chose aussi simple que l'amour sincère donne véritablement des ailes, comme dans une histoire d'amour ordinaire.
J'ai une vie absolument horrible, mais j'essaye d'en retirer le meilleur, d'être toujours positif. Parfois, c'est difficile, mais je sais aussi que je n'ai jamais été dans une meilleure position.
Ce que j'ai découvert, c'est qu'il était vraiment possible pour l'être humain de survivre dans des conditions très, très difficiles, de garder sa dignité humaine, de se transformer vers quelque chose encore de plus positif. Et c'est quelque chose en fait qui m'étonne tous les jours, c'est que Yvan est capable de continuer tous les jours, qu'il vit dans un isolement presque total et qu'il garde toujours sa dignité humaine. Pour moi, c'est presque une sorte de test scientifique très très cruel sur ce que est capable de supporter l'être humain sans être détruit et anéanti.
C'est une histoire d'amour tout à fait incroyable. Au-delà de l'activisme de Tammy, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un lien tout à fait surnaturel qui s'est créé entre ces deux personnes et qui est réellement sincère. Je crois que beaucoup de gens peuvent parfois mettre des doutes sur les liens qui peuvent se faire entre ces prisonniers des femmes de l'extérieur qui les épousent. J'entends pas mal de railleries là-dessus. Je pense que c'est le choix individuel de tout le monde. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus global. Mais quand on regarde l'histoire d'Yvan et Tammy, c'est indéniable qu'il y a une histoire d'amour fantastique qui s'est nouée autour de ça et qui permet là aussi de relativiser pas mal de choses et de problèmes dans la vie quotidienne qu'on peut avoir, parce qu'elle n'a jamais pu toucher son mari du bout des doigts, ils ne se sont jamais embrassés. Elle n'a le droit de le voir qu'une fois tous les 15 jours. Même pas imaginer communiquer par téléphone ou par email. Les prisonniers n'ont juste le droit que d'utiliser une machine à écrire qu'ils doivent acheter eux-mêmes, et c'est le seul mode de communication avec la visite qu'Yvan et Tammy utilisent. Et malgré cela, il y a une histoire d'amour absolument fantastique qui s'est nouée autour de tout ça.
Des lettres, pas des coups de fil, c'est interdit. Donc tout passe par des lettres. Et je pense que c'est l'une des raisons qui explique que nous sommes si proches. Nous ne nous sommes jamais touchés. Nous n'avons pas cette complexité, vous savez, cette complexité physique que connaissent les autres couples. Nous, c'est 10 fois plus compliqué. Mais en même temps, après avoir écrit à quelqu'un pendant plus de 5 ans et demi, vous le connaissez bien mieux que ne se connaissent certains couples qui vivent ensemble. On vit par nos lettres, on fait l'amour par nos lettres, on s'aime. On vit par nos lettres et les visites. Parfois, je suis tellement frustrée que je me dis, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Et puis, je regarde sa photo et je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas abandonner ma vie. Et là, je viens de passer 2 heures et demie avec mon mari et ça me rend si heureuse. Il me nourrit, il me fait revivre. Il vit à travers moi et je vis à travers lui. Et il me rend heureuse. Je ne l'abandonnerai jamais. Il n'y aura jamais d'autre homme dans ma vie.
Se marier et construire une relation avec Tammy, elle est merveilleuse, elle est si authentique, c'est une personne exceptionnelle. Quoi qu'il se passe avec les tribunaux, on restera liés à vie. Elle fera tout pour me ramener à la maison. Ça me donne la motivation pour continuer mon combat. Il y a une vie pour moi dehors.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.